Merci pour ces questions. Peut-être je vais... Bon, les questions étaient en français, alors je vais répondre en français. Les progrès pour déjouer pour réduire les failles et déjouer le jeu des États, alors il n'y a pas vraiment de... Au cours du premier cycle de l'EPU, il y avait le Conseil des droits de l'homme qui s'occupe de l'EPU avait démarré un processus de révision de ses propres modalités, de son propre fonctionnement, et l'EPU à ce moment-là a aussi été révisé par les États, mais aucune avancée concrète n'a été faite. En fait, pour réduire les failles, il faut que ce soit des initiatives de gouvernement qui créent des bonnes pratiques, et ces bonnes pratiques deviennent ensuite quelque part la norme. Par exemple, le Bahreïn était le premier à vouloir dire « je reviendrai dans un an avec un rapport sur la mise en œuvre ». Et ensuite, cette pratique s'est développée et maintenant, beaucoup d'États font des rapports à mi-parcours de manière spontanée et volontaire. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais les États, c'est par la pratique qu'on peut pousser les États à créer des bonnes pratiques, donc des bons exemples, qui ensuite sera repris par les autres États. Mais il n'y a pas, en tout cas, prévu pour l'instant une évaluation de l'EPU et puis une remise à plat de son fonctionnement. Peut-être que des changements voudront être faits pour le troisième cycle, mais en tout cas pour le deuxième, c'est vraiment par petites avancées qu'on peut essayer de réduire les failles. Maintenant, pour les États qui ont eu un changement politique, institutionnel très important, par exemple pour la Tunisie, bon, la Guinée n'a pas été réexaminée, mais la Tunisie qui a été réexaminée, en fait, ce qui se passe, c'est que certes, l'évaluation de la mise en œuvre peut être différente, mais il y a encore beaucoup de recommandations qui restent valables, parce que les recommandations peuvent être... Enfin, le changement de gouvernement ne peut pas résoudre tous les problèmes, ou vice-versa. Donc il y a quand même encore des recommandations qui restent valables et qui peuvent être gardées pour leur valeur. Après, l'évaluation de la Guinée, là, elle sera faite... le changement a eu lieu après... le changement a eu lieu suffisamment avant l'examen, le deuxième examen. Donc, les gens examineront la mise en œuvre à la lueur des changements qu'il y a eu. Les recommandations elles-mêmes, je crois qu'elles gardent quand même leur valeur, même si elles ont été acceptées par un autre gouvernement, puisque la situation dans le pays n'a pas complètement changé, malgré le changement de régime. Donc, les recommandations restent valables. Et en tout cas, c'est l'approche qui a été prise par les États, de dire... Certes, il y a eu des changements, mais les recommandations sont là, il faut travailler avec elles.
Justement, par rapport à ce que vous venez de dire, ce gouvernement, le nouveau, peut toujours dire que ce sont des engagements que nous n'avons pas pris ou ce sont des engagements qui ne cadrent pas avec notre politique publique en matière des droits de l'homme. Et du coup, le Conseil n'aura pas suffisamment de moyens de pression pour faire ce gouvernement ses engagements pris par un autre.
De toute façon, ce qui va se passer, c'est que le gouvernement recevra des nouvelles recommandations. Donc, certes, il pourra dire que les recommandations de l'avant ne comptaient pas, ce qui pourrait être contesté, mais de toute façon, il recevra des nouvelles recommandations. Donc, ce sera un nouveau départ, entre guillemets, à partir du deuxième examen de la Guinée. Donc ce sera peut-être une excuse pour essayer d'éviter les critiques, mais je ne pense pas que les États seront forcément d'accord avec le gouvernement et puis ils diront non, mais pour nous, ce n'est pas parce que le gouvernement a changé qu'il n'est pas censé mettre en œuvre les recommandations qu'il avait reçues. Par exemple, la Libye a également eu un très grand changement de régime. Le nouveau gouvernement a dit... Les recommandations qui nous avaient été faites, c'était les raisons pour lesquelles on a fait la révolution. Entre guillemets, les recommandations étaient en ligne avec nos aspirations à nous. Donc, ces recommandations qui avaient été faites au précédent gouvernement, on va les mettre en œuvre parce que c'est ça qui... Elles vont dans la même direction que là où on veut aller. C'est un exemple où des recommandations faites à un gouvernement différent peuvent quand même être utilisées par le gouvernement qui suit. Pour, encore une fois, la question du bilan de la mise en œuvre et pourquoi il n'y a pas de mécanisme créé, les États ne voulaient pas, tout simplement. Le Haut-Commissariat n'avait pas envie de le faire non plus, n'estimait que ce n'était pas son rôle. Donc ça n'a pas été fait. Après, peut-être que dans le troisième cycle, ça pourrait être créé, mais ça demanderait évidemment des changements institutionnels qui sont très lourds, pour lesquels on peut les souhaiter, mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de discussion, encore une fois, là-dessus actuellement. Sur comment concrétiser les recommandations, là, le rôle des ONG est très important, encore une fois. Des fois, les ONG elles-mêmes ne font pas des recommandations précises. Donc il y a un travail là, et puis après, auprès des gouvernements aussi, pour, lors du lobbying, leur expliquer pourquoi il faut que ces recommandations soient précises. On voit que il y a quand même eu une progression dans les recommandations, dans la qualité des recommandations. Donc c'est dans la bonne voie, mais c'est très très lent. Et malgré tout, la société civile aussi a un rôle à jouer dans les propres recommandations qu'elle suggère. Enfin, les relations entre les différents organes, entre les organes de traité, procédure spéciale et les PU, une résolution du Conseil serait une bonne idée. En fait, les PU pourraient inclure plus, mais le Conseil ne pourrait pas dire aux organes de traité que faire. Donc ça marcherait dans un sens, mais pas dans l'autre. Les organes de traité sont en ce moment en train de discuter, enfin les États discutent de comment améliorer et les faire mieux travailler ensemble. Donc il y a des discussions, effectivement, mais toutes les idées sont les bienvenues, et notamment la société civile. Vous pouvez participer à ces discussions qui se passent à New York. Enfin, comme on prend la parole en mars, il faut s'inscrire sur Internet en fin février. C'est comme pour parler sur n'importe quel point au Conseil des droits de l'homme. Il y a une inscription en ligne le vendredi qui précède le début de la session du Conseil des droits de l'homme. Il faut être dans les 10 premiers qui s'inscrivent. Enfin, pour les manques de moyens, quand c'est un manque de moyens réels, il ne faut pas hésiter à discuter, de solliciter le gouvernement et, entre guillemets, à le pousser à discuter avec le PNUD et avec les ambassades présentes dans le pays qui ont fait des recommandations et qui auraient peut-être un intérêt